On a coutume de dire ou d'entendre que dans la vie, au moins deux choses sont certaines, les impôts et la mort. Il faut avouer que ni l'une ni l'autre de ces fatalités n'est réjouissante. Mais ainsi va la vie en ce bas monde. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil au journal télévisé ou à celui du matin pour se rendre compte que les nouvelles sont essentiellement constituées d'une longue litanie de drames. Et personne n'est épargné. Pour cette raison, les roseaux pensants que nous sommes avons souvent besoin de réconfort, d'une tape amicale sur l'épaule ou d'entendre une parole encourageante. Du début à la fin des textes sacrés, les auteurs reconnaissent que la consolation est un besoin fondamental de la condition humaine. Jésus en était tout à fait conscient et a promis à ses disciples qu'une fois de retour dans les cieux, il leur enverrait un ami conseiller pour les soutenir dans les épreuves de la vie. Et l'apôtre Paul parle souvent de Dieu en tant que Père des miséricordes qui est compatissant et réconforte ceux qui ont la foi en lui et qui l'invoquent. C'est d'ailleurs ainsi qu'il commence une seconde épître aux Corinthiens. Je continue à la lire dans le premier chapitre. Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes d'afflictions, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Dans cette seconde épître aux Corinthiens, Paul mentionne 9 fois le même nom grec qui est rendu par détresse, affliction, tribulation ou pression. Il utilise aussi 3 fois le verbe auquel correspond ce mot. On se rend donc compte que l'adversité fait partie de la vie chrétienne. En fait, croyant ou pas, nous sommes tous à la même enseigne. À côté des tragédies qui frappent les uns et pas les autres, nous naissons tous avec un corps qui contient des programmes d'autodestruction dont un, au moins, tôt ou tard dans la vie, nous amène au cimetière. Dans le meilleur des cas, avec le temps, les cellules vieillissent et les organes s'usent, même pour un surhomme. Et un jour, un incident majeur a lieu et on meurt. D'après la table des nations, du livre de la Genèse, chapitre 5, Mathusalem a vécu 969 ans. Et même si ce sont des années lunaires, de 360 jours, ça fait beaucoup. Oui, mais il est finalement mort. Comme le dit Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et il n'y a point de délivrance dans ce combat. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Quand il mentionne les afflictions, l'apôtre Paul sait de quoi il parle, car il en a probablement enduré plus que la totalité de tous ses lecteurs. Plus loin dans cet épître, il écrit une longue litanie de tous ses malheurs, sans l'avoir évidemment cherché. Paul est passé maître en matière de souffrance. Il détient le premier prix de la ceinture noire à 5e dan. Mais cela fait partie de son ministère, car Jésus avait dit: j'ai choisi cet homme pour me servir. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Actes chapitre 9, les versets 15 et 16. Dans le grec, les versets 3 à 7, l'apôtre Paul utilise 5 fois l'une des formes du mot « consolation ». La source de tout réconfort est Dieu lui-même. Et d'ailleurs, au tout début de l'épître, Paul l'a appelé « le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte ». Plus loin dans ce chapitre, Paul affirme aussi que Dieu l'a soutenu au milieu des souffrances et qu'il l'a délivré. Pour ses enfants, Dieu est un tendre Père et la source intarissable de toutes les miséricordes dont ils sont et seront les objets. Pour les croyants en Jésus-Christ, le grand avantage des afflictions est qu'après avoir été affligés et consolés par Dieu, ils sont bien placés pour soutenir et encourager, réconforter et consoler ceux qui traversent une période difficile, qui connaissent des situations de détresse, des moments de profonde solitude ou qui sont proches du désespoir. Pour la plupart des gens, même ceux qui pratiquent une religion, le christianisme est un rituel morne et vide de sens, un vêtement que l'on revêt à certaines occasions, puis qu'on enlève quand c'est fini. Mais selon l'enseignement du Nouveau Testament, l'une des preuves que Jésus-Christ est celui qui a dit être, qu'il est ressuscité et vivant, et qu'il se manifeste dans la vie de ceux qui lui font confiance. De plus, le Saint-Esprit équipe les enfants de Dieu en leur accordant des dons spirituels. Dans sa première épître aux Corinthiens, Paul a expliqué que ces dons ne sont pas uniquement destinés à édifier celui qui les possède, mais ont pour objectif de servir les autres et de les aider dans leur marche chrétienne. Je continue le texte. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent dans notre vie, surabondent le réconfort qu'il nous donne. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre protection. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. 2 Corinthiens chapitre 1er des versets 5 à 7. Au fur et à mesure que Paul annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il subit des persécutions diverses et quelquefois fort sévères. D'ailleurs, tous les apôtres ont quitté ce monde par une mort violente à cause de leur foi, à l'exception de Jean, qui a été banni. Lorsque les croyants subissent le mauvais traitement à cause du nom de Jésus, lui-même souffre avec eux. Mais sa promesse de les soutenir prend également plein effet. Quand Dieu permet que ceux qui lui font confiance passent par des moments difficiles, il a de bonnes raisons. Cependant, elles sont rarement évidentes à celui qui se trouve dans la fournaise. Ça, j'en conviens. Comme Paul le fait remarquer à nouveau, les croyants qui ont souffert ont vécu une expérience qui leur permet de venir en aide à ceux qui passent par une épreuve similaire. Quand on souffre injustement, il est utile de se placer selon le point de vue de Dieu. Tout ce que je possède en richesse et en talent, matériellement et autrement, y compris mon corps, ne m'appartiennent pas car je n'en suis pas le gérant. Cela veut dire que Dieu est tout à fait libre d'en faire ce qu'il veut. Les épreuves que je subis sont ordonnées par le Créateur pour me garder dans le droit chemin. Il me demande de lui faire confiance alors que je ne comprends ni le pourquoi ni le comment de ce qui m'arrive. Dans le livre des Proverbes, on lit « C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme, mais comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe ?» Proverbe, chapitre 20, verset 24. Je continue le texte. Il faut en effet que vous sachiez, frères, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens chapitre 1er, les versets 8 et 9. L'Asie est une province romaine tout à l'ouest de ce qui est aujourd'hui la Turquie. La vie de Paul n'a rien de commun avec une gentille promenade dans un beau jardin de roses. L'apôtre est probablement à Éphèse, la capitale de l'Asie, quand il se retrouve dans la situation désespérée qu'il décrit ici. L'accumulation d'expressions fortes montre l'intensité de cette expérience qui conduit Paul jusqu'aux portes de l'éternité. En fait, son arrêt de mort est prononcé, et il croit sa dernière heure venue. Dans le livre des Actes, il est question d'une émeute de grande envergure dirigée contre l'apôtre et qui cause son départ précipité de la ville. Il semble que les Corinthiens ont eu vent de ce qui s'est passé, mais n'en avaient pas saisi toute la gravité. Paul ne cherche pas à camoufler les dangers auxquels il a été exposé et ne partage pas les expériences pour qu'on le plaigne ou qu'on l'admire. Il veut seulement montrer qu'à vue humaine, il était totalement incapable de s'en sortir, que c'est uniquement grâce à Dieu qui est intervenu qu'il a échappé à une mort certaine. Quand il n'y a plus d'espérance humaine, il reste toujours aux chrétiens la toute-puissance de Dieu. Je continue. C'est Dieu qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qui nous délivrera encore, et vous y contribuez en priant pour nous. Ainsi, la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. De Corinthiens, chapitre 1er, les versets 10 et 11. Paul reconnaît humblement que Dieu l'a miraculeusement délivré et le délivrera encore suite aux intercessions des frères, dont les Corinthiens. De plus, les événements fâcheux ne le sont pas vraiment puisque Dieu est glorifié en ses enfants qui lui rendent grâce pour la délivrance de l'apôtre. La prière est pour nous un mystère, mais aussi un moyen institué par Dieu pour accomplir sa volonté sur terre. Je continue. S'il est une chose dont nous pouvons être fiers, c'est le témoignage de notre conscience. Il nous atteste que nous sommes conduits dans le monde, et nous spécialement envers vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, en nous fondant, non, sur une sagesse purement humaine, mais sur la grâce de Dieu. Car ce que nous vous écrivons dans nos lettres ne veut pas dire autre chose que ce que vous pouvez y lire et y comprendre. Et j'espère que vous le comprendrez pleinement, comme vous l'avez déjà compris en partie. De Corinthiens, chapitre 1er, les versets 12 et 13. Paul avait promis aux Corinthiens de leur rendre visite afin de régler sur place les nombreux abus qui avaient cours dans l'Église. Il n'a pas encore la rigueur de son autorité apostolique, mais ce n'est que partie remise. Paul écrit donc cette lettre, entre autres pour réfuter les insinuations malveillantes des mauvaises langues à propos de l'authenticité de son apostolat, la droiture de sa conduite et la sincérité de son engagement envers les Corinthiens. On lui reproche aussi des motivations ambiguës, mais qui a bien pu faire naître dans l'esprit de ces jeunes croyants de tels doutes, reprochant à Paul un prétendu manque d'engagement vis-à-vis d'eux et une attitude hypocrite. Ce ne peut être que les faux apôtres qui se sont introduits dans l'Église et qui tentent de discréditer leur principal rival. Paul affirme avec force la totale sincérité de ses lettres dont le contenu correspond exactement à ce qu'il croit. Il n'a pas d'arrière-pensée et ne poursuit pas de but voilé. Il est même fier de sa conduite car il a œuvré avec intégrité sous la direction de Dieu. Paul est un homme franc et direct, tant en parole que dans ses écrits. Plus loin dans l'épître, il confronte ouvertement ses détracteurs en répondant aux accusations portées contre lui. Mais la polémique commence déjà dès le début de la lettre. Je continue. « Vous pouvez être fiers de nous, comme nous le serons de vous au jour de notre Seigneur Jésus. » De Corinthiens, chapitre 1er, verset 14. Paul a une telle confiance dans la réalité de la foi des Corinthiens qu'ils rendront grâce à Dieu tous ensemble le jour où le Seigneur reviendra pour chercher les siens. C'est alors que Dieu dévoilera aussi les véritables intentions de tous, ce que l'apôtre a déjà dit dans sa première épître. Je lis le passage. « Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. » 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Je continue le texte. « Persuadé que telle était votre pensée, je m'étais proposé de me rendre chez vous en premier lieu afin de vous procurer une double joie. Je comptais passer par chez vous en allant en Macédoine, puis revenir de Macédoine chez vous. Vous auriez alors pu m'aider à poursuivre mon voyage vers la Judée. » 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 15 et 16. Désirant voir les Corinthiens, Paul leur avait proposé de s'arrêter chez eux une première fois alors qu'ils firent route en direction du nord de la Grèce, puis une deuxième fois à son retour. C'était pour lui une façon de leur témoigner son affection, car il les porte vraiment dans son cœur. Son projet originel a sans doute été exposé dans la lettre qui ne nous est pas parvenue. Je continue. En formant ce projet, ai-je fait preuve de légèreté? Ou bien mes plans seraient-ils inspirés par des motifs purement humains? En sorte, lorsque je dis oui, cela pourrait être non. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Normalement, un changement de plan aurait déçu ses amis, rien de plus. Mais les détracteurs de Paul ont sauté sur l'occasion pour l'accuser de vaciller comme un navire dépourvu de lest et de ne pas avoir de principe de vie. De telles tares ne pouvant que se refléter dans son enseignement, il n'est pas possible de faire confiance à cet apôtre. Mais Paul nie tout en bloc, car ses premières résolutions étaient sincères. Chez lui, il n'y a pas le non et le oui en même temps. Des contradictions entre ses paroles et sa conduite ou des assurances rejetées à la légère qui ne signifient rien. L'apôtre n'est pas un hypocrite inconstant au mobile égoïste. Je continue. Aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis, la parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois oui et non. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Paul se défend parce que ce ne sont pas seulement ses projets de voyage qui sont mis en cause par les faux apôtres, mais aussi tout l'enseignement qu'il a prodigué aux Corinthiens. Si on ne peut pas se fier à lui, comment peut-on prendre au sérieux ce qu'il dit être la vérité? La source de stabilité de Paul dans son ministère est le Dieu fidèle et vrai. Pareillement, toutes ces paroles sont certaines et dignes de confiance. Je continue. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, comme Silas et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 19. Silas est un collaborateur de Paul qui, comme Timothée, a fait partie de l'équipe missionnaire qui a œuvré à Corinthe. L'apôtre défend avec vivacité son ministère, s'appuyant sur le fait qu'au cœur même de son message se trouve la personne de Jésus-Christ. C'est lui seul, et non un homme quelconque qui a été prêché aux Corinthiens. Paul déclare que quiconque annonce de tout cœur Jésus-Christ, qui est la vérité, et qui proclame l'absolue véracité des promesses de Dieu, est obligé d'adopter une attitude droite au point d'être incapable de duplicité à aucun domaine. Je continue. Car c'est en Jésus-Christ que Dieu dit « oui » à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons « oui, amen » pour que la gloire revienne à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. « Oui » est la forme grecque et « amen » la forme hébraïque de l'affirmation. Paul unit aussi les deux langues. Toutes les promesses faites par Dieu à l'humanité, puis spécifiquement à Abraham et à David, sont sûres et certaines. Elles se sont accomplies en la personne du Christ qui, et à la fois, de la lignée du roi David est le Fils de Dieu. Paul le dit clairement dans son épître aux Romains. Je lis ce passage. La bonne nouvelle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur qui, dans son humanité, descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Romains chapitre 1, verset 3. Après avoir accompli la loi de Moïse, en menant une vie sans reproche, Jésus s'est offert en sacrifice pour le péché, puis est ressuscité des morts, prouvant ainsi qu'il est le Fils de Dieu. la seconde personne de la Trinité. C'est en croyant ce message que les Corinthiens ont obtenu le salut à la gloire de Dieu. Je continue. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous au Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. Sous le régime de l'Ancienne Alliance, les rois, les prêtres et parfois les prophètes étaient oints d'huile, ce qui les consacrait au service de l'Éternel. Jésus-Christ est celui qui a reçu l'onction divine par excellence, car il est à la fois prêtre, prophète et roi. Aujourd'hui, quand quelqu'un place sa confiance en Jésus-Christ, il est consacré à Dieu par le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. C'est lui qui convainc l'incroyant qu'il encourt un jugement parce qu'il est pécheur devant le Dieu trois fois saint et parfaitement juste. C'est aussi le Saint-Esprit qui régénère et donne la vie à l'esprit de l'homme. C'est par lui que le croyant est uni à Dieu et aux autres croyants, et c'est encore lui qui leur donne la capacité spirituelle en vue de l'édification de l'Église. Dieu, en effet, n'accorde pas seulement des dons aux prédicateurs et aux missionnaires, mais il les distribue à tous les croyants. Cette onction du Saint-Esprit est donc très importante, et Jésus l'avait promis à ses disciples quand il leur avait dit « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Jean, chapitre 16, verset 13. Le croyant n'obtient pas un diplôme sous la forme d'une peau d'âne. Par contre, il reçoit intérieurement la vraie connaissance, celle qui lui permet d'entrer en contact et de percevoir le transcendant et les réalités éternelles. Je lis un passage tiré de la première épître de Jean. « Vous avez reçu le Saint-Esprit de la part de celui qui est saint, et vous connaissez tous la vérité. L'Esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise. Car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'esprit. » 1 Jean, chapitre 2, verset 20, verset 27. Je peux bien écouter le meilleur enseignement qui soit concernant Dieu de la part du plus grand prédicateur. Si le Saint-Esprit n'ouvre pas les yeux de mon intelligence intérieure, je ne saisirai rien d'autre qu'une théorie plus ou moins intéressante. Dans le même ordre d'idées, c'est le Saint-Esprit qui éclaire les Écritures pour que je puisse les comprendre afin de les mettre en pratique. Ce n'est pas un comportement religieux, des rites, ni même la bonne volonté qui me permettent d'être en communion avec Dieu. Mais le Saint-Esprit, et cela dès que je place ma confiance en Jésus-Christ et en lui seul.